Sébastien Paour pour le journal. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Comme un air de finale ce soir, l'Euro de football France-Portugal, remake de 2016 au Stade de France. Les coéquipiers de Ronaldo avaient gagné 1-0. Les Bleus sont déjà en huitième de finale cette année. C'est le prochain adversaire qui est en jeu. Nous sommes à Budapest dès le début du journal, dans un village du Périgord où le café est tenu par un couple franco-portugais. Et on s'arrête sur la loi anti-LGBT de Budapest, critiquée par toute l'Europe et mollement par l'UEFA. Au sommaire également ce soir, l'engueulade Darmanin Dupont-Moretti à l'Elysée avant le Conseil des ministres. Les soirées test en boîte de nuit samedi à Paris. Les pistes du rapport Tirole-Blanchard pour relancer l'économie après le virus. Les JO de Tokyo, sans cri, sans liesse. Et au téléphone sonne Fabienne, le cyberharcèlement.
Et oui, au procès Milal, le procureur a dit que ces audiences devaient permettre une prise de conscience. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on sait mieux? Est-ce qu'on saura mieux stopper les raids, les meutes sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'un procès, des peines sont de nature à mettre du plomb dans la tête de ceux qui se croient à l'abri derrière leur clavier ou leur téléphone? On en parle au 01 45 24 7000.
Et c'est à partir de 19h20.
France Inter.
Et si le Portugal et l'Allemagne étaient éliminés ce soir de l'Euro de football? C'est possible après les derniers matchs de poule du groupe F, Allemagne-Hongrie et Portugal-France. Les Allemands, quatre fois champions du monde, les Portugais, champions d'Europe sortants, peuvent quitter la compétition ce soir. On suivra ça évidemment à partir de 21h et notamment ce dernier match des Bleus avant les huitièmes de finale, les hommes de Didier Deschamps face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Vous êtes au stade à Budapest. Bonsoir Alexandre Vaux.
Bonsoir Sébastien.
Ronaldo, 5 fois Ballon d'Or, mais qui ne marque pas contre l'équipe de France.
Incroyable, le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, effectivement, qui n'a jamais réussi à faire trembler les filets des Français. Mais attention, vous l'avez dit, le tenant du titre portugais ne doit pas perdre ce soir s'il veut poursuivre son chemin dans la compétition. À chacun son objectif. Vous l'évoquiez aussi, les champions du monde français doivent eux gagner pour s'assurer de terminer premier de leur groupe et donc jouer un adversaire plus abordable sur le papier en huitième de finale. Le tout dans cette touffeur de Budapest, 30 degrés attendus encore au coup d'envoi à 21h dans la Puskás Arena, ce cratère qui se remplit sous nos yeux, plus de 7500 supporters des Bleus annoncés par l'UEFA dans le seul stade de l'Euro, il faut le rappeler, autorisé à être plein. Didier Deschamps, le sélectionneur français, a donc prévu 3 changements a priori dans son 11 de départ, le retour de Lucas Hernandez à gauche de la défense, Benjamin Pavard remplacé à l'opposé par le jeune Jun Koundé, première titularisation en bleu, et puis le retour, la titularisation au milieu de terrain de Corentin Tolisso.
Alexandre Vaux en direct de Budapest avec Frédéric Kérou. Merci à tous les deux. Avant donc ce Portugal-France qui sera particulièrement suivi dans le Périgord. La communauté portugaise est très importante dans la région de Sarlat, comme par exemple à La Douze, 1200 habitants, dont un tiers de Portugais. Et le seul bar qui diffuse le match est tenu par un couple franco-portugais. Dernier préparatif avant le coup d'envoi avec ce reportage de Marc Bertrand, France Bleu Périgord.
Gwenaël termine d'accrocher les drapeaux portugais et français à l'entrée du café-restaurant sous le bar. Les caisses de bière portugaises sont déjà prêtes pour ce soir.
Alors ça c'est de la super bock, on a la sagresse. Moi je suis française
et mon compagnon portugais.
Eh ben chacun soutient son équipe. Lui est de la tête aux pieds en portugais et moi de la tête aux pieds en française. Et les écharpes, les colliers.
On a les enfants qui font les arbitres surtout au milieu.
Dans sa cuisine en tablier blanc, Serge lave les patates pour préparer les tapas pour le match.
On va éplucher les pommes de terre pour faire de la frite, du magret.
J'ai des plats portugais, ouais, à la carte. J'ai un porc à l'antejana. C'est un mélange de porc avec des palourdes, un peu de coriandre. Ouais.
On a une communauté portugaise à peu près à 30% sur le village, donc les gens nous demandent le match. Oui, oui, forcément, là, c'est obligé, là.
Ça crie beaucoup. Ça crie beaucoup parce que les Portugais sont très festifs. C'est les moments en général que j'attends, même si je ne suis pas très foot.
Ici, en 2016, il y a eu jusqu'à 200 personnes devant le café-restaurant pour regarder le France-Portugal en finale de l'Euro. Ça avait été un concert de klaxons dans tous les hameaux de la 12. Alors cette année, qui va gagner?
Mon pronostic, ça serait un match nul. Oui, 1-1 ou 2-2.
Non, moi je pense un 2-1 ou un 3-1 pour la France.
Bah allez les Bleus!
Vive Portugal!
L'autre match ce soir, c'est celui qui oppose la Hongrie à la communauté LGBT. Budapest vient d'adopter une loi qui interdit de faire la promotion de l'homosexualité aux mineurs. Loi dénoncée par le reste de l'Europe. Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir.
Et en premier lieu, Claude, par l'Allemagne.
Oui, Francfort, Cologne, Augsbourg, Berlin, 1-1, grand stade, mais aussi hôtel de ville, institution, entreprise, magasin. Pas une heure n'a passé aujourd'hui sans qu'un nouveau drapeau arc-en-ciel ne fleurisse à travers l'Allemagne. La décision décision de l'UEFA envoie un mauvais signal pour le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas. Une décision qui provoque aussi l'incompréhension de l'Élysée qui dit regretter profondément le veto de l'instance européenne de football. Pour Angela Merkel, la loi votée par le Parlement hongrois à quelques heures du coup d'envoi du premier match de l'Euro à Budapest la semaine dernière est tout simplement mauvaise. Devant les députés allemands, la chancelière a dénoncé un texte incompatible avec son idée de la politique. À travers de nombreuses capitales européennes, même consternation pour la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, cette loi va à l'encontre des valeurs fondamentales de l'UE, une honte, a-t-elle souligné, des propos qui ont évidemment fait bondir le gouvernement hongrois qui cet après-midi a renvoyé l'appareil, qualifiant à son tour de honteuse la réaction d'Ursula von der Leyen. Plusieurs clubs de foot hongrois ont décidé de pavoiser leur stade aux couleurs du drapeau national pendant le match de ce soir.
Et au milieu, l'UEFA qui tente de faire bonne figure, son logo sur Twitter est coloré en arc-en-ciel et son président refuse que l'instance du foot européen soit utilisée, dit-il, dans des actions populistes. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, Joe Biden lui-même s'adresse à deux sportifs qui viennent de faire leur coming out. Le président américain se dit fier de leur courage. Message sur Twitter à Karl Nassib, joueur de foot américain, premier joueur en activité d'une équipe de la Ligue professionnelle à annoncer qu'il est homosexuel. Et message aussi à Kumi Yokoyama, la star de l'équipe féminine du Japon de foot, qui joue au club américain du Washington Spirit et qui s'est présenté le week-end dernier pour la première fois comme un homme transgenre.
Deux ministres qui s'écharpent à propos des régionales.
Scène rarissime ce matin à l'Élysée, au moment du Conseil des ministres. Scène décrite comme violente entre celui de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et celui de la Justice, Éric Dupond-Moretti. À propos de la liste de la majorité dans les Hauts-de-France, 9,1% des voix au premier tour et donc éliminé. Maxence Lambrecq, l'ancien avocat, est venu dire à son collègue de Beauvau qu'il n'a pas apprécié sa critique à peine voilée des résultats.
Les visioconférences avaient du bon entre les deux hommes. Avant que le président n'arrive, Éric Dupond-Moretti alpague Gérald Darmanin. Féliciter Xavier Bertrand pour son bilan, c'est une trahison. Tu ne peux pas marcher sur tes collègues si tes propos sont vrais, c'est pathétique. Réponse tac au tac de Gérald Darmanin. Depuis quand on critique ceux qui gagnent des élections ? Qu'importe, victoire ou défaite, c'est une question de loyauté, conclut le garde des Sceaux. L'étincelle vient de France Inter, de mon reportage avec le ministre de l'Intérieur lundi à Tourcoing. Il s'est félicité de faire au départemental 6 fois mieux que la liste régionale de Pietraszewski et Dupond-Moretti sur laquelle il figurait en avant-dernière position. Il a notamment lancé cette pique.
Je pense qu'être élu local, c'est très important. Voilà, je pense qu'un homme politique, une femme politique doit être élu. Et il a quelque chose qui lui manque de légitimité lorsqu'il n'est pas élu.
Il s'en prend ainsi à la quasi-totalité du gouvernement et continue de jouer sur les deux tableaux. À ses yeux, son ami Xavier Bertrand a été récompensé pour son bilan en Hauts-de-France. Mais ce en même temps-là, Emmanuel Macron ne va plus le supporter longtemps, prévient un conseiller ministériel. De toute façon, le duo Darmanin-Dupond-Moretti ne fonctionne pas, tant cinq ministres, ils sont trop éloignés l'un de l'autre.
Et à propos de politique encore, les dates de la présidentielle 2022 seront officielles mercredi prochain. Ce sera probablement les 10 et 24 avril.
Le seuil de 54 Covid pour 100 000 habitants est de nouveau dépassé dans un département de métropole.
Ce sont les Landes et 70% des cas sont des variants Delta du coronavirus, variant qui pourrait représenter 90% des nouveaux cas en Europe d'ici fin août. Jean Castex et Olivier Véran seront demain matin à Mont-de-Marsan. Le Bas-Rhin est aussi sous surveillance à cause de ce même variant indien. Une soixantaine de cas et plusieurs foyers, notamment à Strasbourg. Malgré tout, la situation s'est nettement améliorée. Le masque n'est plus obligatoire en extérieur, sauf exception. Les taux d'incidence sont retombés. Même les boîtes de nuit rouvriront dans 2 semaines. Bien sûr, sous conditions. On en a parlé ici même, notamment un pass sanitaire, une jauge à 75%. Et certains pourront danser dès ce week-end, à condition d'accepter de participer à une étude qui a été baptisée « Reviens la nuit », 2 soirées test dans 2 clubs parisiens, avec Laurent Garnier, avec Étienne de Crécy, Pedro Winter au platine. Et pour la science, bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
On a besoin de 4400 volontaires.
Oui, mais avant de vous précipiter au cabaret sauvage ou à la machine du Moulin Rouge, sachez tout de même qu'il y a quelques conditions indispensables pour y participer. Être âgé entre 18 et 49 ans et avoir une couverture vaccinale complète deux injections ou une seule si vous avez eu la Covid. Les 4400 participants sélectionnés auront ensuite une chance sur deux d'aller bouger leur corps sans masque sur les mix de Laurent Garnier ou Étienne de Crécy. Comme toute étude randomisée, il faut en effet un groupe contrôle. Eux seront invités à vivre un samedi soir à la maison. Tous, en revanche, réaliseront un test salivaire d'ici à samedi et en referont un 7 jours après. Le but, c'est de voir si le groupe qui aura dansé pendant des heures sans geste barrière dans la chaleur d'une boîte de nuit s'est contaminé plus que celui resté tranquillement sur son sofa. Car à l'heure actuelle, il n'existe aucune étude dans le monde à ce sujet, souligne Jérémy Zegag, le médecin de la PHP, coordinateur du projet.
Vous avez probablement entendu parler de Liverpool, aussi au club Apollo à Barcelone, mais il n'y a eu aucune expérimentation de cette envergure sur la vaccination. Et donc, on va avoir des informations cruciales sur la transmission chez des personnes vaccinées. C'était pour nous crucial d'avoir cette information-là.
Et les résultats sont attendus fin juillet, début août, certes après la réouverture des boîtes de nuit, mais le but est de pouvoir guider les pouvoirs publics et pourquoi pas alléger le protocole si les résultats sont probants. Si vous voulez y participer, il faut s'inscrire sur le site revientlanuit.org.
Merci Hélène Chevalier. Le Quai d'Orsay vient par ailleurs d'ajouter 3 pays à la liste rouge des quarantaines à l'arrivée en France. Russie, Namibie et Seychelles. Là, ce n'est pas d'un virus dont il s'agit, mais du CBD, la molécule non psychotrope du cannabis. La Cour de cassation vient de casser la condamnation d'un commerçant de Grenoble qui vendait des produits à base de cannabidiol. Motif, on ne peut pas interdire la commercialisation dans un État membre de l'Union européenne si ce produit est produit légalement dans un autre pays de l'Union. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir.
C'est une décision qui rassure les vendeurs.
Oui, car c'est une jurisprudence favorable et importante qui se forme pour les boutiques de CBD. Déjà la semaine dernière, la Cour de cassation a rendu un premier arrêt pour invalider la fermeture d'un magasin à Dijon. Mais surtout, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé en novembre dernier que la France ne peut pas interdire ce qui est produit légalement dans un autre pays de l'Union. Le CBD, le cannabidol, une des molécules du cannabis, n'est pas psychotrope. Il ne doit pas, selon la réglementation française, compter plus de 0,2% de THC, le tétrahydrocannabinol, molécule qui a, elle, des effets psychoactifs. Selon la Cour de cassation, donc, son importation, sa vente sont possibles. Elle invalide par là même la condamnation en appel d'un vendeur de Grenoble. C'est la fin du flou juridique pour les vendeurs et la fin des poursuites, estime Ingrid Metton, avocate qui avait porté l'affaire jusqu'à la juridiction européenne.
C'est une décision qui les protège de façon définitive, qui va pouvoir limiter grandement toute future procédure. Par contre, cette décision n'est pas un blanc-seing, puisqu'il faudra quand même démontrer l'origine et le taux de THC qui, je le rappelle, doit être simplement à l'état de trace.
Selon elle, l'arrêt de la Cour de cassation pourrait même ouvrir la voie à une filière de production de CBD en France. Pas de raison qu'il soit interdit de produire ici ce qui est autorisé chez nos voisins européens, estime-t-elle. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé fin mai qu'il travaille à une nouvelle réglementation pour autoriser la culture de CBD en France pour les produits dérivés.
Rémi Brancato, plusieurs dizaines de personnes devant le palais de justice de Paris ce matin en soutien à la députée France Insoumise Danielle Obono, décrite et dessinée en esclave en août dernier par Valeurs Actuelles. Bonsoir Laurélie Carrive. Le magazine est notamment poursuivi pour injures publiques à caractère raciste. Le directeur de la rédaction, de la publication et l'auteur de l'article mettent en avant la liberté d'expression.
Premier à s'avancer à la barre, Laurent Dandrieux, veste beige et crâne dégarni, rédacteur en chef des pages culture à Valeurs Actuelles. Cette fiction signée sous pseudonyme, c'est lui qui l'a écrite. Et non, dit-il, ce n'est pas en raison de sa couleur de peau que Danielle Obono a été choisie. Même si ses origines en faisaient un personnage plus crédible, c'est en raison des idées qu'elle défend et parce qu'elle incarne le courant indigéniste, explique-t-il. Pour sa défense, la revue a fait citer comme témoin Philippe Val. Si je suis là, c'est parce que Valeurs Actuelles n'a pas outrepassé les limites de la satire, invoque l'ancien dirigeant de Charlie Hebdo, avant de dénoncer une censure qui serait aujourd'hui le fait de l'opinion. Dans le camp adverse, un autre témoin, Lilian Thuram, en s'appuyant parfois sur des anecdotes personnelles, l'ancien footballeur relève un à un les préjugés racistes qui, selon lui, parcourent la publication. Dans l'article, Madame Obono est sale, noire, moche, forte physiquement, énumère-t-il. On la renvoie en Afrique. C'est très courant dans le discours raciste. T'es pas content, retourne chez toi, tu te rendras compte à quel point la France est fantastique. Lilian Thuram interroge. Pourquoi renvoie-t-on aussi souvent les personnes noires à l'esclavage? Ça revient à les fixer dans une forme d'infériorité. À l'heure où je vous parle, l'audience est toujours en cours.
L'Aurélie Carrive en direct du Palais de Justice de Paris. La grève est terminée à Europe 1. La direction s'engage à ouvrir des discussions sur une sorte de clause de conscience pour permettre à ceux qui veulent quitter la station de le faire. La rédaction conteste le rapprochement de la radio du groupe Lagardère avec CNews, la chaîne d'info du groupe Canal+.
C'est Emmanuel Macron qui leur avait commandé un rapport.
C'était il y a un an, mais la pandémie est passée par là. Jean Tirole et Olivier Blanchard viennent de rendre leur 500 pages sur les défis de l'économie après le virus. Le prix Nobel d'économie et l'ancien chef économiste du FMI proposent notamment de se pencher de nouveau, Delphine Simon, sur trois sujets qui ont été un peu écartés.
Premièrement, le retour de la taxe carbone qui avait allumé la mèche de la révolte des Gilets jaunes. C'est une taxe indispensable, affirme le prix Nobel Jean Tirole, qui compte sur le chef de l'État pour assumer ses responsabilités. Autre priorité, lutter contre les inégalités de capital à la naissance. Les économistes proposent de taxer davantage les successions dans une idée de redistribution. Idée à laquelle Emmanuel Macron a fermé la porte au début du quinquennat. Enfin, les économistes proposent de relancer la réforme des retraites à points qui remplacerait les annuités en l'amendant un peu. Nul besoin de partir de zéro, la réforme sur la table à l'Assemblée est un bon point de départ, explique l'ancien chef économiste du FMI Olivier Blanchard. Des réformes qui ont déjà été tentées, mais elles sont mal comprises des Français. Jean Tirole veut privilégier l'acceptabilité et se préoccuper des perdants. L'Élysée prend note de ces analyses. Si elles nourrissent le programme du candidat Macron, c'est tant mieux. Si d'autres candidats suivent, c'est génial, affirme aussi le prix Nobel.
Jean Tirole et Olivier Blanchard qui seront les invités d'Inter demain à 8h20. Un rapprochement de taille dans l'édition française. Gallimard rachète Minuit. Le rapprochement sera effectif au 1er janvier 2022. C'est la fin de l'indépendance pour la prestigieuse maison fondée en 1941 et contrôlée par la famille Lindon depuis 1948. On dit de lui qu'il a réinventé le comic strip américain. Chris Ware, 53 ans, décroche la plus prestigieuse des récompenses de la bande dessinée, le Grand Prix de la ville d'Angoulême. Chris Ware, c'est la ligne claire des formats classiques de vignettes, des albums comme Building Stories ou Rusty Brown, paru l'an dernier chez Delcourt. Et voici comment il travaille.
Quand je me lance dans une planche, j'essaie de rendre une émotion, un sentiment étrange que j'associe à un épisode particulier, au temps qu'il faisait, à la neige, à des odeurs. C'est difficile à dire avec des mots, c'est pour ça que j'utilise des images. C'est la fonction de l'auteur, de créer un personnage, quel qu'il soit, que le lecteur puisse non seulement comprendre, mais dont il puisse partager les sentiments, et même dans lequel il puisse se projeter. Moi, j'ai envie que mes dessins, ils rebutent, vraiment. Qu'il soit froid et distant, que l'histoire soit comprise le plus clairement possible, mais que l'intrigue reste aussi complexe, et compliquée et incompréhensible que la vie elle-même. J'avance vraiment au sentiment, à la sensation, et je ne sais jamais la tournure que va prendre l'histoire. Je commence en haut, à gauche de la page, ou parfois au centre, avec une idée assez claire d'où je veux aller, et quand j'arrive en bas de la page, généralement, c'est parti complètement ailleurs. Et c'est l'idée, en fait, d'arriver là où je ne m'y attendais pas.
Le dessinateur américain Chris Ware, Grand Prix donc à Angoulême, c'était en janvier dernier sur Inter dans Boomerang d'Augustin Trapenard. On termine avec le début des Jeux Olympiques de Tokyo, c'est dans un mois tout juste, des JO toujours évidemment sous la menace Covid et qui seront d'ores et déjà inédits à cause de cette pandémie. Pas de public étranger, pas de fan zone, pas d'alcool, pas de cris d'encouragement. Même celle qui a porté le projet, la gouverneure de Tokyo, est hospitalisée pour grosse fatigue. Alors, qu'en pensent les Japonais? Reportage à Tokyo, Karine Nishimura.
19h à Tokyo, heure limite pour commander des boissons alcoolisées dans les restaurants. Pendant l'état d'urgence, l'alcool était même interdit. Du coup, pour les Jeux Olympiques non plus, pas de bière dans les stades, mais est-ce bien gênant? Réaction des passants, pas toujours très enclins à répondre, le sujet des JO est devenu sensible.
Faut vite que je rentre, j'ai acheté du saumon frais, demandez à quelqu'un d'autre.
Au suivant...
Je pense qu'on peut quand même apprécier le sport, malgré les restrictions, être sur place c'est déjà bien. Et puis on ne boit pas tellement pendant les JO.
On n'y peut rien, puisqu'on a interdit l'alcool dans les restaurants, c'est dans la continuité des mesures prises jusqu'à présent. Mais je ne suis pas sûr que ça solutionne tout.
Sécurité avant tout, il est aussi demandé aux spectateurs de ne pas crier, d'éviter les accolades, bref, de contenir joie ou peine.
Il y a d'autres façons de soutenir les athlètes, sans crier ou sans liesse. On peut très bien aussi fêter cela autrement, chez soi.
La chance des organisateurs comme du gouvernement est que les Japonais sont extrêmement disciplinés. Tokyo, Karine Nishimura pour France Inter.
Oui, on n'imagine pas vraiment ça ce soir non. Pour Portugal-France à Budapest. Pas de cris, pas de liesse, interdiction de se toucher, de parler fort.
Voilà, bon, vous savez, non, ça ne marche pas. Quoique sur les canapés, éventuellement.
Mais là, on n'est plus au stade, hein. c'est plus les Jeux Olympiques.
Non, c'est moins qu'on puisse dire. Sébastien, merci beaucoup, on reprendra cette conversation passionnante demain à la même heure.